Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouédraogo avec vous pour Sporama. Ce soir, ravi de vous retrouver pour cette émission. Suivez OA Afrique et comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct. Composez le +1 202 205 26 33, +1 202 205 26 33. Et puis, on commence par cette bonne nouvelle côté sénégalais. Eh bien, les Lions de la Teranga qui ont enfin une victoire avant Russie 2018. Les poulains de Dalou Cissé et sa bande, Sadio Mané et autres, ont donc arraché leur toute première victoire dans cette préparation. Et c'est la première victoire aussi du Sénégal depuis le début de cette préparation pour l'année 2018. Et donc, un ouf de soulagement pour Sadio Mané et ses coéquipiers, mais aussi pour cette grande famille sénégalaise. En attendant de rentrer en contact avec nos intervenants habituels, et j'ai nommé Thierry Kamboundi depuis Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc, en attendant que Amdine Sy nous rejoigne, Amdine qui est présentement à Moscou, en Russie donc, Amine Birouk du côté de Casa, c'est au Maroc également. Et donc, Thierry, vous êtes avec nous. Le Sénégal qui signe enfin sa première victoire durant cette série de matchs amicaux. Qu'est-ce que cela fait?
Je ne vous saisis pas très bien, Yacouba.
Alors, Thierry, je le disais tout à l'heure, le Sénégal qui vient de signer sa toute première victoire dans cette série de matchs amicaux avant Russie 2018. On va rappeler que c'est le dernier match du Sénégal, joué même aujourd'hui. Et le Sénégal qui vient de signer sa toute première victoire, j'ai dit, qu'est-ce que cela fait aux poulains de Dalou Cissé qui vont bientôt rentrer en lice?
Écoutez, Yacouba, ça fait toujours du bien de terminer la préparation par une victoire. Je suppose que le sélectionneur national a tiré tous les enseignements, même des rencontres qui n'ont pas été concluantes au niveau des résultats. Mais ça fait toujours du bien pendant qu'on est en train d'harmoniser les villes, pendant qu'on est en train de finaliser la préparation d'enregistrer un bon résultat. Le Sénégal va partir en forme, le Sénégal va partir confiant avant d'entamer cette Coupe du Monde, avec l'idée, bien évidemment, et beaucoup d'Africains en parlent, c'est de faire mieux qu'en 2002 au Japon et en Corée. Donc, le coach qui fait tous les stats,
et donc on a
suivi plusieurs fois en interview la semaine dernière, sont confiants. La préparation s'est bien passée malgré que les résultats n'ont pas été bons. Mais là, sur ce dernier match, ils se sont montrés plutôt rassurants et c'est de bonnes mesures avant l'entame de cette Coupe du Monde.
Élisée Oumpatine, vous venez de nous rejoindre depuis Boïko au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Alors Thierry l'évoquait tout à l'heure, le Sénégal qui signe enfin sa première victoire dans cette série de matchs amicaux, cela donne un boom au cœur.
Bien évidemment, surtout que parmi les cinq représentants, le Sénégal a une très bonne formation. Notamment avec des joueurs expérimentés. Quand nous prenons la défense, il y a Koulibaly, le défenseur de Napoli qui est là, qui a une certaine expérience. Il y a aussi Karamboj qui n'est plus à présenter au milieu de terrain. Il y a aussi des très bons joueurs qui évoluent surtout dans le championnat anglais, dans de très bons clubs. Et en attaque, nous avons Sadio Mané, la star de cette équipe, Diafra Sakho ou encore Mbanyang, et qui a évolué entre-temps du côté du Milan AC, qui a pris part à Montpellier. Aujourd'hui, il joue dans le championnat, il est toujours dans le championnat italien. Donc, c'est dit que le Sénégal a des très bons joueurs expérimentés qui peut amener cette équipe très loin. Maintenant, durant les préparations, cette formation n'a pas du tout convaincu, surtout face à Luxembourg. Et quand on parle du football, eh bien, l'équipe de Luxembourg n'est pas véritablement une foule de guerre, mais déjà avec ce match nul, on a commencé par se poser des questions. Maintenant, avec cette victoire de cet après-midi, il faut dire que Aliou Cissé pourra un peu souffler en attendant de rentrer dans le vif du sujet, puisque dans le groupe dans lequel les Sénégalais sont, et c'est un groupe relevé, les joueurs sénégalais doivent hausser le niveau de leur jeu, surtout jouer en équipe pour pouvoir se qualifier pour le second tour.
Alors, Jules Valentin Ngwe, vous venez de nous rejoindre depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba.
Alors, le Sénégal, on va le rappeler, hein, qui est logé dans la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Le Sénégal qui espère bien sûr revivre ce qu'il a vécu en 2002 lors de Corée-Japon avec cette place de quart de finaliste. Les Lions de la Teranga quand même qui participeront pour la deuxième fois à ce mondial-là. Et il faut dire que côté préparation, on l'évoquait tout à l'heure, il n'y avait pas eu de victoire avant cette victoire d'aujourd'hui. Et le Sénégal qui avait fait déjà 1-1 contre l'Ouzbékistan, 0-0 contre la Bosnie, 0-0 contre le Luxembourg et qui avait même perdu devant la Croatie 2-1 vendredi dernier. Et paradoxalement, par rapport à la Croatie justement, les Sénégalais ont montré du mieux sur ce match face à un autre mondialiste. Alors, ils ont enfin une victoire aujourd'hui. Ça peut être de bon augure pour entrer en pleine compétition.
Oui, bien sûr, c'est bon pour le moral. Mais on le sait, les matchs de préparation ne ressemblent pas aux matchs de compétition et normalement n'ont pas les mêmes objectifs. Et le Sénégal a pour principal énigme à résoudre le collectif, le jeu collectif. Les individualités ne posent pas de problème, mais c'est surtout transformer une sélection en véritable équipe ayant plusieurs options selon les situations. C'est ça le grand problème. Mais sinon, pendant la compétition elle-même, je crois que en partant avec un peu de plus de modestie, comme c'est le cas actuellement au vu des résultats, le Sénégal peut avoir une production nettement supérieure puisque les équipes qu'il rencontrera le trouveront plus en posture de contre que dans le registre de l'équipe qui vient pour faire le jeu. Et dans cette posture-là, le Sénégal sera très dangereux.
Allô, Jules?
Oui, si, je vous entends bien là maintenant.
Ok, vous nous entendez parfaitement maintenant. Alors, on va le rappeler, le Sénégal est logé dans la poule H, je le disais tout à l'heure, avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Élisée, quelle chance pour les Lions indomptables de sortir de cette poule-là, qui, quoi qu'on dise, reste quand même ouverte.
Oui, très ouverte, surtout que... il n'y a pas véritablement une équipe, surtout quand on prend la Colombie, c'est vrai que la Colombie est une équipe qui a de très bons joueurs, hormis James Rodriguez qui évolue du côté du Bayern de Munich. Il y a aussi Radamel Falcao qui, malgré tout ce qu'on pourra dire, reste un buteur né. Et il y a aussi Carlos Bacca qui s'est retrouvé du côté de Villarreal. Donc dans cette formation, il y a de très bons joueurs qui ont souvent l'habitude d'affronter de grandes nations de football comme l'Argentine et le Brésil. Maintenant, il y a aussi la Pologne d'un certain Robert Lewandowski qu'on ne présente plus, le meilleur buteur du championnat allemand depuis 4 saisons. C'est vrai que Pierre-Emerick Aubameyang s'est glissé en temps, mais Lewandowski reste un grand buteur. Hormis Lewandowski, on peut dire que le reste, c'est une équipe moyenne. Maintenant, les Sénégalais doivent prendre les matchs les uns après les autres, essayer de faire de très belles prestations, puisque le football sud-américain, on le connaît très bien, c'est un football technique, pas assez tactique pour pouvoir mettre en difficulté les Sénégalais, puisque déjà les Sénégalais ont un atout d'avoir de très bons joueurs, puisque j'avais dit tantôt, les joueurs qui évoluent dans de très bons championnats. Et on espère que déjà les Sénégalais pourront remporter des matchs contre la Pologne et pourquoi pas contre le Japon. C'est vrai que rien n'est jamais gagné d'avance, mais les Sénégalais ont une chance de se qualifier dans ce groupe.
Merci Élisée. Donc on vient de faire signe qu'on a finalement Amine Birouk en ligne depuis Casa. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à toi. Et donc on l'évoquait tout à l'heure, les Lions de la Teranga qui ont renoué avec le succès en s'imposant 2-0 face à la Corée du Sud en Autriche pour leur dernier match de préparation. Et il faut le dire, dans une rencontre disputée à huis clos et sans caméra, peu d'informations filtrées. Néanmoins, les hommes d'Aliou Cissé ont ouvert le score sur un but contre son camp, consécutif à un centre de Pape Aliou Ndiaye à la 54e. Puis Moussa Konaté a fait le break sur pénalty en fin de partie à la 85e. Et donc, c'est une victoire face à un autre mondialiste, la première d'ailleurs en 2018 pour le Sénégal, qui quand même se fera quand même un peu de bien avant leur entrée en lice au mondial le 19 juin face à la Pologne. Alors, un autre groupe avec une autre réalité, c'est bien sûr le groupe B, qualifié de groupe de la mort. Et là, on retrouve le Maroc, l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Amine, vous qui étiez le week-end en Estonie, à Tallinn, pour le dernier match des Marocains face à l'Estonie, tout s'est bien passé, on va dire, avec cette victoire à la clé.
Tout s'est bien passé, surtout le bilan est positif, de victoire et un nul, des automatismes qui commencent à être huilés, des plans de jeu qui ont été mis en place lors de ces trois rencontres. Il y a véritablement une seule petite ombre au tableau idyllique de l'équipe du Maroc pour le moment, c'est la blessure de Nabil Dirar, l'ex-joueur de Monaco actuellement à Fenerbahçe, qui fait, je dirais, qu'un des poumons de l'équipe, un des éléments indispensables, soit pour l'instant dans le doute. On ne sait toujours pas s'il va aller en Coupe du Monde. Il y aura un dernier test médical dans les 48 heures qui viennent pour savoir si Hervé Renard pourra compter sur lui au moins pour le deuxième ou le troisième match. Sinon, il va falloir mettre en pratique d'autres options de jeu avec Amrabat à droite et Hakimi à gauche, ou bien Hakimi à droite et Mendy à gauche. Ça enlève un peu plus d'expérience à cette équipe du Maroc. C'est quand même le buteur face à la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a plusieurs rencontres de Champions League et qui connaît les réalités du football de haut niveau. Sinon, on pourrait peut-être utiliser un joueur qui n'a pas les assises du poste comme Amrabat, qui est plutôt un attaquant ou un joueur de couloir, mais de façon plus offensive, ou Hakimi, qui est un joueur qui a moins de 15 rencontres de Liga au compteur. Face à l'Espagne et au Portugal, ça peut être léger, mais pour l'instant, l'équipe du Maroc est focalisée sur le premier match face à l'Iran. C'est des 3 points de cette rencontre que dépend le sort des Lions de l'Atlas, car avec une victoire face à la sélection iranienne, qui est mieux classée que le Maroc au classement FIFA, mais qui possède peut-être moins de talent, que dépendra le sort de cette sélection. Après, il faudra se confronter à d'autres réalités, celle du Portugal, champion d'Europe, qui vient de battre l'Algérie 3-0 et qui débarque en Russie avec le plein de confiance, ou l'Espagne qui a été ébranlée quelque peu dans ses certitudes lors de la dernière rencontre amicale face à la Tunisie, puisque à Krasnodar, au même moment où le Maroc affrontait l'Estonie, les Espagnols ont piétiné pendant 84 minutes avant de pouvoir s'imposer grâce à un but du remplaçant Iago Aspas face à une sélection tunisienne qui a montré tout au long de ses 3 sorties amicales qu'elle avait également le potentiel pour titiller la Belgique et l'Angleterre.
Jules, je me tourne vers vous. La tâche, il faut le reconnaître, s'annonce bien évidemment difficile pour les Lions de l'Atlas qui devront batailler dur, on va le dire comme ça, face à des formations de superstars, vainqueurs de l'Euro 2016 pour ce qui est du Portugal et de la Coupe du Monde 2010 pour ce qui est de l'Espagne. Mais la chose aussi qu'on peut retenir, c'est que le Maroc reste invaincu en 2018 et c'est impressionnant.
Oui, bien sûr, le Maroc présente une très bonne équipe et pour moi, apparemment, après la blessure, surtout du ballon d'or africain, reste pour moi peut-être l'équipe qui peut aller le plus loin. Mais le Maroc est dans une poule, comme on le dit, assez difficile. Seulement, cette poule est homogène dans le style de jeu. Toutes les 4 équipes logées dans la poule jouent de la même manière. On n'aura pas d'opposition de style. Tout se jouera en fin de compte au niveau de l'efficacité, qu'elle soit offensive ou défensive. Donc, le Maroc est averti, il faudra vraiment gagner ses victoires, construire ses victoires au fur et à mesure. Et comme il joue ses matchs crescendo, et il met le paquet sur le premier match, comme on l'a dit, et ensuite il fait des calculs d'équipier. Donc je crois que c'est une équipe qui peut nous donner de grandes satisfactions lors de ce mondial.
Jules ?
Oui, je vous ai repris.
Ok, vous m'avez repris, ok. Alors, on va passer à un autre groupe, le groupe G, avec la Tunisie, l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Il faut dire que côté préparation, après 2 matchs nuls, 2-2 face au Portugal et 2-2 également contre la Turquie, la Tunisie s'est inclinée devant l'Espagne 0-1 à l'occasion de son 3e match de préparation. Et c'est la première défaite des Aigles de Carthage aussi en 2018. On retiendra surtout leur comportement exemplaire quand même sur le terrain. Dans l'ensemble, les Aigles ont tenu et peuvent espérer, on va le dire comme ça, un résultat positif le 18 juin prochain contre l'Angleterre. Élisée, les Aigles de Carthage avec l'Angleterre et la Belgique dans le même groupe, on peut espérer un second tour?
On peut espérer, hein, à Yakuba, on peut espérer surtout que le dernier match sera face au Panama, sans que je blesse cette équipe de Panama, mais en tout cas, face à la Tunisie, hein, les Tunisiens ont une chance de battre cette équipe lors de la dernière journée. Donc, et pour cela, il suffit simplement de faire un très bon résultat d'abord contre l'Angleterre lors de son premier match et puis contre la Belgique au second match. Maintenant, quand on prend la prestation des aides de Carthage contre le Portugal et la Turquie, il faut dire que ça promet, même si face à l'Espagne, en cette formation s'est inclinée, n'oublions pas que le but a été encaissé en toute fin du match à la 87e minute de jeu. Ça veut dire que les Tunisiens se sont bien préparés. C'est vrai que on ne peut pas comparer un match de préparation à un match de Coupe du Monde, mais déjà les Tunisiens sont déjà en confiance et compte tenu de leurs prestations respectives, j'allais dire, contre le Portugal, la Turquie et bien sûr l'Espagne. Et maintenant, il ne faut pas trop se prendre la tête, hein, parce que déjà en Coupe du Monde, ça va être très très difficile, mais les Tunisiens peuvent se qualifier. Je l'ai dit tantôt, il leur suffit simplement de faire un très bon résultat contre l'Angleterre, de ne pas perdre contre la Belgique et de miser gros face au Panama lors de la troisième sortie. Et bien, voilà, ils peuvent espérer une qualification pour le second tour.
Sporama, suivez OA Afrique. Et bien, si vous venez de nous prendre, on revient tout de suite et ça continuera. Dans le groupe A, l'Égypte fait face à la Russie, pays hôte, à l'Uruguay et à l'Arabie Saoudite. L'Égypte, hein, qui revient au mondial après 28 années d'absence, et la difficulté avec cette formation la réside vraiment dans la blessure de Mohamed Salah, qui porte pourtant les pharaons. Et donc, la blessure de Mohamed Salah avec Liverpool faisait déjà trembler les supporters de l'Égypte, on va le dire comme ça. Et pour cette Coupe du Monde-là, bien sûr, 2018, jusqu'à présent, Mohamed Salah n'a pas totalement repris. Ce matin, il a assisté, hein, à l'entraînement des pharaons. Amine, l'Égypte sans Mohamed Salah, ça, c'est pas très rassurant.
L'Égypte sans Mohamed Salah, c'est 50% de potentiel en moins, surtout sur le plan offensif. L'Égypte sans Mohamed Salah, c'est une stratégie de jeu qu'il faut revoir. Aujourd'hui, il y a une Salah dépendance qu'on a vu lors du dernier match amical soldé par une défaite en Belgique, 3-0, une défaite lourde de conséquences. L'Égypte qui est baignée sur des certitudes, notamment défensives, avec un bloc solide, des joueurs expérimentés dans chaque ligne, notamment le gardien Al-Hadari, le doyen de cette Coupe du Monde, âgé de 45 ans, aujourd'hui est dans le doute. Et si en plus de ça, elle ne peut pas compter sur son meilleur élément, voilà qui pourrait les pénaliser pour leur entrée en compétition face aux favoris du groupe A, l'Uruguay. La presse est très critique vis-à-vis des stratégies de jeu d'Hector Cooper. Elle est souvent en train de comparer les prestations de l'Égypte avec celles de la Tunisie et du Maroc lors des rencontres amicales. Le fait que ces équipes soient peut-être un peu plus complètes, et aujourd'hui, c'est une vague de critiques qui s'abat sur le sélectionneur égyptien. Le mieux payé des 5 qualifiés africains à cette Coupe du Monde. Et on attend, on espère, on croise le doigt, on touche du bois, en attendant le retour de Mohamed Salah. Un Salah à 30 à 40%, ça mobilise les défenseurs. Un Salah à 70%, ça peut créer des brèches. Et un Salah à 100%, ça devrait porter l'Égypte vers le deuxième tour de la compétition.
Merci bien, Amine. Dans le groupe D, Nigeria, Argentine, Croatie et Islande, hein, croiseront le fer. Il faut dire que pendant leur préparation, les Super Eagles se sont inclinés 1-0 face à la République tchèque. Le Nigeria a aussi été battu, hein, par l'Angleterre 2-1 et a fait un match nul 1-1 face au Léopard de la RDC. Jules, cette phase, hein, de préparation pour le Nigeria en termes de résultats, en tout cas des matchs, n'est pas du tout rassurante.
Oui, parce que le Nigeria, il ne faut pas l'oublier, est qualifié, d'accord, mais c'est quand même une équipe de transition. Donc une équipe très rajeunie qui est en train de grandir, mais qui se retrouve brutalement ici dans une grande compétition où déjà il fera beaucoup en se mettant au niveau des compétiteurs. Et le Nigeria se trouve dans une poule où il y a deux gros morceaux, l'Argentine et la Croatie. Et de l'autre côté, il y a une Islande qui fait fermer le jeu et et être réaliste pour faire la différence. Donc, face à l'Islande, non, ce ne sera pas non plus facile. Et donc, ça se jouera justement sur des détails, des tout petits détails. Et je crois que le Nigeria est parti pour faire un marathon lors de sa phase préliminaire. Et parfois, il faudra s'attendre à ce que ce soit les détails qui fassent la différence.
Merci bien. Jules Dupuis, Libreville, Sporama, sur VOA Afrique. On marque une seconde pause et on se retrouve tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que le coup d'envoi du Mondial 2018, c'est ce jeudi, mais bien avant, dès mercredi, on saura qui va organiser la Coupe du Monde 2026. Et ça se joue entre le Maroc et le trio américain, États-Unis, Canada, Mexique, qui du challenger est marocain, qui rêve de devenir le deuxième pays africain à accueillir le Mondial, ou du trio des États-Unis, du Canada et du Mexique, favori en tout cas, sera chargé d'accueillir le Mondial 2026, la première Coupe du Monde à 48 équipes. Le verdict, c'est mercredi, je le disais tout à l'heure, à l'issue du congrès de la FIFA à Moscou. Amine, vous qui suivez cette affaire de près, quelles sont les chances du Royaume chérifien?
Le Royaume chérifien démarre la compétition en outsider, il ne faut pas se leurrer. On se retrouve face à un mastodonte nord-américain qui bénéficie non seulement des moyens matériels, d'un savoir-faire en matière d'organisation et surtout des infrastructures. La notation au niveau de la task force, entre guillemets, task force entre guillemets, était de 4 sur 5, mais le Royaume chérifien continue à proposer une alternative, une Coupe du Monde différente, un visage humain avec des infrastructures modulables. Il croit également en ses chances et puis il se dit que le bloc européen pourrait répondre massivement en sa faveur. Il est vrai que les fuseaux horaires sont les mêmes, que la distance pour que les supporters européens viennent encourager est bien moindre et surtout il compte également sur un tweet ou deux tweets de plus offensifs de la part de l'exécutif américain. Il faut juste se rappeler que les menaces de l'exécutif américain ont bien fait changer quelques avis. En Afrique, certains ont décidé de se ranger derrière la position américaine, et c'est de la géostratégie. D'autres ont continué à penser que la position marocaine était la mieux à même de représenter le continent. Aujourd'hui, il est question de lobbying. Ça se joue au niveau des présentations, je dirais au niveau des confédérations continentales qui sont réunies à Moscou. Les Marocains se sont réunis avec les représentants de l'Afrique. Ils pourraient compter sur une quarantaine de voix. Il y a aussi le bloc asiatique qui pourrait pencher en faveur du Maroc, mais c'est vrai que ce sont des alliés, sachant que l'Arabie Saoudite a fait défection et qu'elle pourrait amener vers elle d'autres pays en faveur de la position nord-américaine. Et puis, ça se joue au niveau de la Confédération qui l'a mieux représentée avec 55 pays, c'est l'Europe. Ça pourrait se décanter dans les prochaines heures. Tout est question de lobbying et de savoir-faire, de capacité de persuasion. D'un côté, il y a un projet économique, industriel, rentable. De l'autre, un projet plus humaniste, plus tourné vers l'avenir et la jeunesse du continent africain. Ce sera aux 208 représentants de fédérations nationales de faire leur choix et d'opter pour quel modèle ils voudront voir la Coupe du Monde se tourner.
Alors, Élisée, très rapidement, en 30 secondes, Amine l'évoquait tout à l'heure, ce tweet de Donald Trump qui mettait quand même un peu de pression sur les pays supportés par les États-Unis. On se rappelle aussi que le Maroc avait critiqué le président de la FIFA, notamment Gianni Infantino, de partialité dans cette affaire. Est-ce que tout se joue en défaveur du Maroc?
Oui, apparemment, il faut le dire, à Cuba. Et surtout que depuis la défaite des Américains face aux Qataris, eh bien, les Américains ont commencé par mettre la pression sur la FIFA. On a vu ce qui s'est passé par la suite, ce qui a amené Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Maintenant, après, eh bien, ça a été mis en œuvre pour que le trio États-Unis, Mexique, Canada puisse organiser la Coupe du Monde. Déjà, les discours qu'a proféré quand même Infantino lors du congrès.
Élisée, ce sera votre mot de fin.
De Casablanca a montré clairement que.
Élisée,
est-ce que le Maroc.
Élisée, ce sera votre mot de fin. Merci à vous depuis Boyoko. Merci également à Amine Birouk depuis Casa. Bonsoir Amine.
Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.
Merci également à Jules Valentin Ngoué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir et à très bientôt.
C'est tout pour Sporama d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La suite, c'est avec Raïssa pour votre journal.